RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonsoir, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Véronique Rigolet.
Bonsoir.
Alors nous recevrons dans cette deuxième partie François Patriat, sénateur de La République En Marche et proche d'Emmanuel Macron. Mais notre premier invité est Éric Coquerel. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là. Vous êtes député de la France Insoumise. Merci donc d'avoir accepté cette invitation. Alors, on vient d'écouter le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe, alors réformer, refonder l'Europe, et des propositions concrètes avec l'Europe de la défense, la création d'une force d'intervention en complément de l'OTAN avec un budget commun, une taxe carbone aux frontières, une généralisation d'une taxe sur les transactions financières pour financer l'aide publique au développement. On l'écoute, on en reparle.
Il y a deux pays en Europe qui ont une taxe sur les transactions financières. La France, et je le dis avec d'autant plus d'humilité que c'est un de mes prédécesseurs qui l'a choisi. Prenons cette taxe, généralisons-la au niveau de l'Europe, et je suis prêt, je suis même volontaire, pour en donner l'intégralité des ressources à l'aide publique au développement européenne.
Voilà, plus la taxation des GAFA, hein, des Google, Amazon, Facebook, Apple. J'imagine que c'est pas pour vous déplaire, cette proposition.
Non, si on regarde quelques éléments précis du discours d'Emmanuel Macron sur 1h40, vous allez peut-être trouver des choses qui pourraient ne pas me déplaire. Je vous parle d'autres choses. Par exemple, il parle de convergence sociale et fiscale. On se dit, tiens, il va conditionner le reste de la construction européenne à cette convergence qui est absolument indispensable si on veut sortir d'un grand marché unique dans lequel règne un dumping généralisé qui met les peuples en concurrence. Mais sauf que il y a d'une part les choses concrètes qu'il avance, c'est-à-dire l'Europe vécue comme une fin en soi, où la France abandonne sa souveraineté en matière de défense, en matière de marché unique, en matière économique, en matière voire diplomatique, etc. Enfin, toutes choses qui peut intéresser à la fois Monsieur Juncker et Madame Merkel. Et puis de l'autre côté, il y a des vœux pieux de ce qu'il faudrait faire.
Bon, oui, c'est sa vision.
Voilà,
après,
c'est sa vision. Mais sauf que ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est qu'il y a d'un côté le concret et de l'autre côté la vision. Vous savez, les socialistes pendant 30 ans nous ont vendu l'idée d'une construction européenne qui était une fin en soi nécessaire à avancer. Et puis un jour, on verrait l'Europe sociale. On n'a jamais vu l'Europe sociale, y compris quand ils ont tous gouverné les pays européens. Et quelque part, c'est à nouveau ce que nous dit aujourd'hui Emmanuel Macron. C'est-à-dire, il nous dit, il faut une intégration plus forte de la zone euro, c'est-à-dire d'une Europe de l'argent. Bon, il ne dit pas qu'il conditionne ça, par exemple, par le fait de revoir la politique européenne en matière monétaire. Est-ce que c'est un euro qui sert encore une fois à une politique monétariste, à une politique d'austérité qui répond aux intérêts des rentiers allemands, mais pas de l'économie française? Bon, ça, il ne le dit pas. Et pour cause, ce que je crains, c'est que le projet d'Emmanuel Macron soit une intégration européenne pour l'intégration et qui, pour le coup, fasse que la France abandonne des pans entiers de sa souveraineté sans pour autant qu'il y ait le moindre progrès pour les peuples européens. Voilà ce que je crois qui est sur table aujourd'hui.
Ce discours, alors qu'on a vu Angela Merkel affaiblie au terme de sa quatrième réélection, est-ce qu'il devait se tenir là? Est-ce que c'était important? Est-ce que, en quelque sorte, Emmanuel Macron, il prend une sorte de leadership politique de l'Europe au moment où la chancelière allemande est affaiblie?
Écoutez, le jour où Alstom est vendu à Siemens, en tout cas pas sous domination allemande d'une des grandes entreprises allemandes.
L'aspect ferroviaire.
L'aspect ferroviaire, mais le reste a été vendu aux Américains il y a 2 ans. Et c'était les éoliennes marines qui sont absolument fondamentales pour la transition écologique.
Non, mais
si je mets les deux en parallèle, ça montre bien que d'un côté il y a les mots, et puis d'un côté il y a la réalité. Bon, et la réalité, c'est que depuis des années, nos gouvernements laissent une Europe se faire sous domination, non pas allemande, mais des possédants allemands, d'une politique qui correspond, j'allais dire, au capitalisme allemand, pour aller vite, aux intérêts du capitalisme allemand, qui est basé sur une politique d'exportation, sur un euro fort, etc. Bien. Donc, c'est ça aujourd'hui que Emmanuel Macron nous refait. Donc, moi, je ne crois aucunement que par ses déclarations, il prendrait un leadership. En réalité, dans les mesures concrètes, il avance des choses qui peuvent tout à fait intéresser Mme Merkel, qui d'ailleurs n'est pas si affaiblie que ça, parce que certes, elle a un pourcentage, elle a perdu un peu de pourcentage, mais enfin, elle va être chancelière pour la quatrième fois, et ceux qui sont encore plus affaiblis qu'elle, c'est ceux qui, en théoriquement, devraient représenter une alternative, mais qui ne sont plus capables de représenter une alternative nulle part, c'est-à-dire les sociaux-démocrates allemands. Donc moi, je ne trouve pas aujourd'hui que le discours d'Emmanuel Macron soit celui d'un leadership.
Mais si on veut revenir à l'Allemagne 5 minutes, donc c'est la fin, vous l'avez dit, de la coalition avec les sociaux-démocrates, mais cette victoire est tout de même amère, parce qu'elle devra sans doute travailler avec les libéraux, et puis surtout l'AFD, c'est-à-dire l'extrême droite qui est rentrée au Bundestag, et ça c'est quand même historique. Donc il y a un glissement de l'Allemagne, c'est quand même nouveau. Est-ce que vous vous dites pas, aujourd'hui, vaut peut-être mieux une Angela Merkel qui soit un garde-fou, et plutôt qu'un nationalisme qui se mette à grandir et à glisser dangereusement?
Mais c'est-à-dire que, oui, enfin, là, vous me parlez de la politique intérieure allemande,
oui,
qui est certes intéressante, bien sûr.
Ah, oui, mais
enfin, moi, ce que je constate, c'est. Regarde
l'Allemagne va peut-être l'Europe va peut-être se construire au regard de ce qui se passe.
Pour l'instant, elle se construit sur les intérêts allemands. D'accord ? C'est ce qui se passe. Est-ce que ça va changer ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Bon. Or, une partie du discours d'Emmanuel Macron est de nous dire qu'en réalité, les deux économies, y compris même en termes d'impôts, en termes de fiscalité, en termes de structurel, doivent de plus en plus converger. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous pensez que ça veut dire que le modèle allemand va aller vers le modèle français ? Par exemple, le modèle contractuel allemand va évoluer vers le modèle français qui, jusqu'à maintenant, faisait prédominer la loi sur l'accord d'entreprise. Vous voyez bien que c'est l'inverse de ce qui est en train de se passer.
Vous
ne
voulez pas me parler de l'Allemagne, de ce qui se passe avec la montée de l'extrême droite ?
Si, il y a une montée de l'extrême droite. Bien sûr qu'il y a une montée de l'extrême droite. Enfin, je vous remarquais que
notre
extrême droite est à 21%. D'accord ? Donc, moi, ce que je constate en Allemagne pour l'instant, dans ce qui va être la politique allemande, c'est que Mme Merkel ne va pas changer d'un iota sa politique. Ce n'est pas l'alliance avec les libéraux et. Parce qu'elle ne va pas s'allier avec l'extrême droite. Ça, l'extrême droite fait rentrer son Parlement. Mais l'alliance avec les libéraux et les Verts allemands, qui manifestement ne sont pas gênés pour gouverner avec la CDU, cette politique-là ne va pas changer. Elle va encore plus, d'ailleurs, quelque part, essayer de répondre aux intérêts économiques allemands et à commencer par celle
de
leur président.
Donc, vous demandez plus d'austérité si vis-à-vis les libéraux ?
Ah, mais je pense qu'elle va demander, bien sûr, elle va plus que jamais demander, par exemple, les exigences d'un euro fort. Pourquoi ? Parce que l'euro fort lui permet de continuer à faire la politique d'exportation sur laquelle s'est basé le mieux-être économique allemand, en tout cas les rebonds économiques après le début des années 2000 qui a été catastrophique pour eux. Donc, mais c'est pas l'économie et c'est pas la politique qui convient à un pays jeune comme la France, qui a besoin d'une relance d'activité. Et la preuve de ça, c'est que vous avez vu que les chiffres du chômage pour le deuxième mois consécutif continuent à augmenter en France. C'est pas la politique.
Ça veut dire, en gros, Éric Coquerel, que toute l'ambition européenne, là, au terme de ce vibrant discours du président, ce sont des vœux pieux?
Il y a d'un côté des mesures très concrètes qui nous inquiètent. Oui. Perte de souveraineté sur la défense, c'est quand même pas rien. Je vous rappelle nous sommes la puissance nucléaire.
Sur la question militaire,
du grand marché unique, là par contre, il va vers plus d'intégration. Donc c'est l'Europe du fric, quoi. Disons-le clairement. Et le reste, je dis que c'est des vœux pieux. C'est des vœux pieux. La transaction financière dont il parle, ça fait des années qu'on nous en parle. Où a-t-elle avancé ? À quel endroit a-t-elle avancé ? La convergence sociale et fiscale, où a-t-elle avancé ? La seule façon de faire avancer les choses, ça serait de dire, nous, la France, on est d'accord éventuellement pour plus d'intégration, pourquoi pas, mais les conditions, c'est l'harmonisation sociale et fiscale. C'est une méthode de speak européen. Tout ça, il en parle, mais il en fait absolument pas une condition.
Mais sur les travailleurs détachés, il a été clair quand même.
Non, sur les travailleurs détachés, il a dit deux choses. La première chose, c'est qu'il parle de réforme des travailleurs détachés. Je vous rappelle ce que ça veut dire dans sa bouche. C'est le fait qu'au lieu de passer de contrat de 3 ans, on passerait de contrat d'un an. Donc on changerait tous les ans de travailleurs détachés. Je ne vois pas le progrès fantastique que cela suppose. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne dit pas ce qu'il faudrait faire. Nous, ce qu'on ferait, on dirait on désobéit à la directive des travailleurs détachés. Ouais. On n'y obéit plus. Et on regarde ce qui se passe en Europe, je vous assure que la plupart des pays européens seraient satisfaits de la position de la France. Et à partir de là, vous établissez un rapport de force. Vous ne quémandez pas le fait que les autres pays européens acceptent quelque chose qui est devenu insupportable qui mine en plus l'adhésion à l'Europe parce que ça construit un dumping absolument intolérable.
Alors, vous le disiez, vous l'évoquiez il y a quelques minutes, donc Alstom et Siemens vont se fusionner. Donc Alstom, le champion français du ferroviaire, Siemens allemand devrait avoir 50% des parts. Le reste, c'est pour l'État français et Alstom. Est-ce que vous ne dites pas, dans le fond, que c'est pas plus mal que les Allemands viennent investir en France ?
Ah non, je dis pas ça et je pense qu'il faudrait tout de suite convoquer une commission parlementaire pour étudier ce qui est en train de se passer dans cette histoire. Vous avez vu qu'un documentaire, je ne vais pas citer la chaîne, parce que c'est une chaîne concurrente.
Vous, hier, vous allez la réclamer, cette commission?
Oui, on la réclame. Voilà. Il faut une commission parlementaire, parce que Alstom, c'est une histoire qui n'est pas aujourd'hui. Il y a 2 ans, on a bradé le secteur donc des éoliens marins, qui est absolument fondamental si on veut prendre la transition écologique au sérieux. Aujourd'hui, il n'y a plus de fabricants français d'éoliennes marines en France. Premier problème. Ça l'a été fait en disant on va créer 1000 emplois. On les a perdus. Donc, hop, déjà, Alstom dépecé pour l'intérêt de General Electric, pas l'intérêt de l'économie française. Deuxième chose, maintenant, c'est le TGV. Et on nous annonce qu'en réalité, nous allons passer sous domination allemande, puisque la majorité des actionnaires seront allemands.
Avec
et là, en l'occurrence, je ne condamne pas l'Allemagne de faire ça. Madame Merkel, là, pour le coup, défend les intérêts de son industrie. Ce que je condamne, c'est que le gouvernement, depuis des années, laisse brader un fleuron de l'industrie française et qui est en plus indispensable stratégiquement.
C'est du bradage, selon
vous. Bien sûr, c'est du bradage. Oui.
Mais
comme Alcatel l'a été, et comme peut-être demain, j'espère me tromper, mais je redoute les annonces sur STX. Le chantier STX avec
Mais est-ce que c'est pas moins dangereux les Allemands que les Chinois?
Ah bah pourquoi?
Bah parce que là il y a la concurrence chinoise.
Pourquoi,
est-ce que si
Chinois
on n'est pas plus fort
qui...
Non mais
les
regardez.
Chinois veulent acheter Alstom. J'ai pas compris
non,
ça.
Mais face aux Chinois.
D'accord, il y a une concurrence chinoise. Mais enfin, est-ce qu'au nom de la concurrence chinoise, il faudrait pour ça faire en sorte que nous n'ayons plus aucun fleuron industriel en France? Bah, évidemment que non. Là, tout le problème, on en revient aux discussions du début, c'est que tout le problème, on nous vend ça comme plus d'intégration européenne. Or, dans l'Europe, les nations continuent à exister, avec des intérêts à certains moments divergents, ou en tout cas qui ne sont pas forcément les mêmes. La nation allemande, l'État allemand défend, y compris même d'ailleurs une appropriation nationale du capital plus important qu'il n'est en France. Bon, on défend son économie sur des critères qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, et il faudrait un jour comprendre ça pour arrêter cette espèce de vision angélique qui permet que l'industrie allemande continue à tourner pendant que l'industrie française est en train de péricliter.
Peut-être une autre question, je ne sais pas si Véronique, je voulais rester un instant là-dessus. Vous faites, la France insoumise, une critique juste du capitalisme, puisque vous dites que le capitalisme est rude, ce qui est la vérité. En revanche, on a l'impression que vous n'avez pas réellement les solutions, ou alors que les solutions sont des vieilles solutions, comme les nationalisations. On a nationalisé la sidérurgie et on a vu ce que ça avait donné. Donc on n'a pas l'impression que vous donniez des solutions qui peuvent marcher.
D'accord. Ce qui est vieux, c'est la politique qui, depuis 30 ans, consiste à dire que les bénéfices d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Vous savez, c'est le théorème de Schmitt, hein, qui est 80. C'est ce que d'ailleurs veut faire à nouveau M. Le Maire, qui a exactement quasiment mis cette citation en exergue de sa politique annoncée demain avec le plan, le PLFSS. Bien. Donc, cette politique-là est vieille. C'est celle des ultralibéraux, de Thatcher, de Reagan. Ça a 30 ans. Elle échoue à peu près partout dans le monde. Nous avons un projet alternatif. Grossièrement, il est connu. C'est une relance keynésienne de l'activité qui mise sur le fait que le problème n'est pas l'offre, mais la demande. Le tout avec quelque chose là, par contre, profondément nouveau, qui est la question de la planification. Non, ça s'est pas appliqué, ce n'est plus appliqué depuis 30 ans. C'est une politique qui a été battue en brèche par les libéraux partout dans tous les États. Par contre, ce que nous disons de nouveau, c'est que le premier intérêt général de l'humanité est menacé. C'est celui de pouvoir continuer à respirer sur notre planète ou à y vivre de manière à peu près supportable à cause du changement climatique, ce qui induit tourner toute l'économie vers la question de critères écologiques. Et c'est pour ça que nous proposons, par exemple, une planification écologique de l'économie qu'on retrouve dans notre programme, notre programme L'Humain d'abord. Donc ça, vous pouvez pas dire qu'on n'a pas de projet. On a un projet, on peut être d'accord ou pas d'accord. Ah. Mais c'est un projet qui existe et qui, en tout cas, me paraît au moins aussi réaliste et crédible, et en tout cas plus juste et plus économe pour l'humanité que le projet qui sévit aujourd'hui dans le pays.
En attendant, vous poursuivez votre lutte contre les ordonnances réformant le Code du travail. La démonstration était réussie, celle de Jean-Luc Mélenchon samedi dernier. Il y avait du monde autour de votre patron de groupe à Paris. Et maintenant, que se passe-t-il? On a vu bien que les manifestations de routiers avaient un peu du mal à embrayer. Est-ce que là, vous butez pas sur un vrai problème? On ne sent pas, comme vous le souhaitez, s'agréger les mouvements de contestation contre le gouvernement.
Il y a un constat.
C'était le pari, hein.
Oui, j'ai bien compris. Il y a un constat. D'abord, c'était une manifestation réussie.
Je l'ai dit.
Vous l'avez dit.
Il y a eu 30 000 selon la police,
non,
150
000
selon, vous. Alors.
30 000 dans le cortège selon la police.
Comme
150
000 le fait dans les manifestations politiques, qui a fait une déclaration alambiquée sur des ordres qu'ils ont venus je ne sais d'où pour dire qu'il n'y a pas de comptage, mais qu'ils avaient fait une estimation. Bon, enfin, tout ça ne veut rien dire. Et quiconque a été sur place constate que ça a été un très gros succès.
Il y avait du monde, ça c'est la certitude.
Donc, moi ce que je crois, c'est que il y a un refus de la politique d'Emmanuel Macron, je le pense. Je pense qu'il est majoritaire de ce qu'on ressent dans la société, de ce qui nous est traduit. Il n'y a pas plus d'acceptation de sa loi travail qu'il prépare que celle de la loi El Khomri. Je vous rappelle que les Français sont restés majoritairement opposés. Par contre, la vraie question, c'est est-ce que tout ça peut se mettre en mouvement? Là, vous avez raison. C'est-à-dire que c'est pas si simple parce que les gens se disent « bon, bah, on n'a pas réussi à battre Sarkozy sur les retraites, on n'a pas réussi à battre François Hollande sur la loi El Khomri ». Qu'est-ce qu'on peut faire cette fois-ci? Donc, d'où la proposition que nous avons faite. C'est-à-dire que chacun, j'allais dire, avec ses caractéristiques, doit effectivement mener bataille. Les syndicats mènent bataille. J'ai appris avec satisfaction aujourd'hui que la CFE-CGC est en train de faire des propositions d'action commune à la CGT, à Solidaires et FSU. Donc, on voit bien que le front syndical peut s'élargir. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et parce qu'ils ont des actions propres. Et nous, en tant que mouvement politique capable de mobiliser, on a fait effectivement une proposition, y compris d'ailleurs derrière les syndicats, puisqu'on n'a pas, on n'est pas en concurrence, au contraire, qui serait pourquoi pas d'imaginer, au moment où la loi va revenir à l'Assemblée vers le fin novembre, a priori, une très très grande manifestation monstre qui permettrait
voilà, de sur les
Champs-Élysées, qui permettrait de faire converger de l'autre
et masse. Pourquoi ça ne m'a pas moins marché là?
Parce que justement, l'idée, c'est que nous nous mettions tous ensemble pour réaliser cette manifestation et que nous avons bien conscience que nous avons une très grande capacité de mobilisation, d'autant plus que vous avez vu d'autres, d'autres politiques nous ont rejoints. Je pense à Olivier Besancenot, à Benoît Hamon.
Est-ce que c'est pas un coup d'épée dans l'eau puisque les ordonnances sont là et c'est un cercle vertueux en quelque sorte. S'il arrive à faire passer les ordonnances, le reste des réformes risque de passer aussi.
Voilà, vous êtes une excellente propagandiste de notre cause parce que, comme vous l'avez dit, s'il réussit à faire passer les ordonnances, tout le reste vient. C'est-à-dire, bon, il y a déjà un budget d'austérité absolument terrible qui arrive. Mais après ça, on nous annonce des réformes du chômage, des réformes des retraites, des réformes des cotisations sociales fiscalisées qui sont la destruction totale du système social français. Donc, il faut les stopper. Et non, non, c'est pas trop tard. Je rappelle que le CPE avait été promulgué, adopté, promulgué, avant que Dominique Villepin soit obligé de le...
C'est vrai, mais il n'y avait pas eu de concertation avant, comme il y en a eu quand même pendant 3 mois.
Les syndicats ne disent pas qu'il y a eu concertation, écoutez-les.
En attendant le million de Français, ou pas, fin novembre sur les Champs-Élysées, est-ce que l'âpreté de la lutte, là, c'est un vrai bras de fer qui est engagé entre votre parti, entre autres, et le gouvernement justifie tous les propos? On a beaucoup entendu cette petite phrase dans le discours de Jean-Luc Mélenchon samedi dernier, qui a fait couler beaucoup d'encre avec cette référence qualifiée douteuse aux nazis. On écoute Jean-Luc Mélenchon.
Personne n'avait jamais parlé au peuple français de cette façon. C'est la rue qui a abattu les rois. C'est la rue qui a abattu les nazis.
Voilà la rue. La rue qui a abattu les rois et qui a abattu les nazis, mettre sur le même plan les rois, les nazis, Juppé, le CPE, est-ce que c'est pas quand même ce qu'on appelle un gros dérapage, à tout le moins historique, Éric Coquerel?
Ce qui est bizarre, c'est que allez-y, finissez votre question.
Et est-ce qu'on va poursuivre dans cette violence verbale? Voilà.
Donc, tous les gens qui ont écouté le discours, y compris vos confrères présents, qui, au moins qu'on puisse dire, ne sont pas tous des partisans de la France insoumise.
Ils ne sont pas tous mélenchonistes.
Non, personne n'a entendu ça. Personne n'a entendu sur place. Et y compris, je vous ai tout à l'heure donné une anecdote, je vais la répéter, ce sont des confrères à vous.
Vous voulez dire que c'était sorti du Conseil? On l'a bien
entendu. Bien sûr, ce sont des confrères à vous qui nous ont dit, je ne sais pas citer leur nom, je pense que je leur attirerai des problèmes, qui nous disent, c'est étonnant, c'est nos rédactions qui nous appellent maintenant, 3 heures après le meeting, pour nous dire, il faut monter cette question en épingle, etc., et en faire l'événement de la journée, ce qui permettait de moins parler de la réussite de la marche, à ce moment-là, et de moins parler aussi des propositions que nous avons faites. Bon, donc, je vous le dis tout de go, je pense qu'il y a eu un travail très construit. Moi, j'ai repéré des tweets en même temps de Castaner, de Ferrand, de Valls. J'ai vu une évolution des rédactions au niveau des sujets qui sont passés à la soirée sur un sujet qui, sur place, n'a absolument pas été vécu comme une violence verbale.
Non, il n'y a pas de dérapage. On peut mettre sur le même plan les nazis, le CPE, Alain Juppé.
Il n'a pas mis sur le plan tout ça, etc. C'est pas vrai. Il n'a pas mis sur le même plan le nazisme et Alain Juppé. Ne dites pas ce genre de choses. Parce que là, du coup, vous reprenez ce que vous dénonciez tout à l'heure. Il n'a pas dit ça. Il a simplement dit une chose.
Mais tout le monde a raconté un peu n'importe quoi.
Il a juste dit une chose. Macron avait dit la rue, c'est pas la démocratie. Nous, on dit que la rue fait partie de la démocratie. Elle n'est pas seulement. Et que dans l'histoire de France, il y a eu des grands moments où le peuple a su se mobiliser et que la démocratie était de son côté.
Voilà, c'est la fin. Ouais. On terminera. Hein, c'est la fin de cette première partie de Mardi Politique avec Éric Coquerel. Après les infos, nous accueillerons le sénateur François Patriat.
RFI et France 24 présentent
Mardi Politique.
Retour dans Mardi Politique avec Véronique Rigolet et notre deuxième invité François Patriat. Bonsoir. Vous êtes sénateur en marche de la Côte d'Or et vous êtes un proche, un des pionniers hein, qui est allé très vite avec Emmanuel Macron. Donc sénateur, hein, et des élections sénatoriales, eh bien, elles avaient lieu dimanche soir, même si un peu passé, inaperçu, faut reconnaître. Donc le Sénat, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux, il reste à droite, aucun bouleversement. Pourtant, il y a quelques mois, lorsque vous étiez dans la dynamique macronienne, vous rêviez de 50 à 60 sièges. Vous en avez qu'une vingtaine, on ne sait pas encore exactement, vous nous le disiez avant cette émission, de ne pas donner le chiffre. Vous ne les connaissez pas vous-même, mais une vingtaine. Alors parleriez-vous de relatif revers électoral en sachant que le mode de scrutin n'est pas favorable à un parti tout neuf comme En Marche ?
Non seulement il n'est pas favorable, mais... Je veux bien qu'on revienne. Vous avez deux questions. Vous avez dit ce que j'avais pronostiqué avant, souhaité.
Non, ça je l'ai dit parce que vous l'avez
dit. On peut le dire. Quand on crée un courant ex nihilo, un mouvement ex nihilo, dans une enceinte comme le Sénat, ou pour grandir, vous voyez, l'UDI, pour passer de 30 à 50, ils ont mis 12 ans. Nous, pour passer de 0 à 30, on a mis un mois. Ensuite, on espérait grossir parce que je pensais que certains allaient nous rallier. Et je ne savais pas à l'époque que les deux tiers de notre groupe étaient soit en départ de Sénat, soit renouvelable. Donc j'ai dit ça ce jour-là. J'avais corrigé le tir depuis, puisque j'avais dit au cours du mois de septembre qu'on serait une dizaine en plus. Ouais. Donc nous n'allons pas dire que nous avons gagné. C'est un échec, échec explicable. C'est-à-dire que je ne suis pas de ceux qui disent qu'on a toujours gagné quand on a perdu. Je m'explique. Notre grand défaut, vous savez ce que c'est ? C'est de ne pas avoir gagné les municipales de 2014. Il n'y avait pas En Marche.
C'est l'explication mécanique. Vous n'existiez pas en 2014.
Et malgré les grands électeurs, ça veut dire que nous n'avions dans cette élection aucun grand électeur.
Oui, c'est vrai.
Aucun, puisque tous les grands électeurs dans les villes, ça ne suffit pas pour expliquer. Mais ce que je dis dans cela, je voyais tout à l'heure des parlementaires qui n'ont pas été élus ou réélus, mais des gens qui, sur le territoire, ex nihilo, dans des départements qui ont fait 427, 527 voix de grands électeurs, quand il en faut 600 pour être élu, je me dis que bien que nous n'ayons pas de grands électeurs, vous savez que nous avons raté les élections à moins de 30 voix pour presque 10 sièges.
Mmh. Voilà. Pour autant, il y a les effets mécaniques, mais pas seulement. Vous pouviez espérer gagner une dizaine, voire une vingtaine de sièges. Que s'est-il passé ? Est-ce que les déclarations du président Macron, et notamment les coupes auprès des collectivités, justement, ça n'a pas inquiété les élus, les grands élus locaux qui finalement ont décidé de voter un peu traditionnellement, soit à droite, soit à gauche, et plutôt à droite, vu que le Sénat reste.
Dans le fait que nous aurions pu le faire. Il y a d'abord le fait, effectivement, que tous les grands électeurs étaient désignés par les grands partis politiques. Je parle des grandes villes et de tous les départements où il y a eu un proportionnel. Votre question. Bien. Le deuxième, donc il y avait ça. En second lieu, je crois que l'opposition, et c'est, je réponds à votre question par là, a fait une campagne, j'allais dire une campagne cantonale habituelle autour de caricatures autour de et qui sont vérifiées aujourd'hui. Vérifiez que c'était caricatural. Le comité des finances locales annonce aujourd'hui qu'il y aura 10 milliards pour les collectivités. Oui. La campagne s'est faite sur quoi ? Parce qu'il n'y a pas
sur la suppression de la taxe d'habitation, des emplois aidés. Ça a effrayé les élus.
On a dit baisse des dotations. Oui. Le budget qui va être présenté demain montre qu'il n'y a aucune baisse de dotation et nous l'avons dit. Mais la droite et les socialistes ont dit partout qu'il y aurait des baisses. Ils ont dit ensuite gel de crédit. Tous les gouvernements depuis 30 ans, en cours d'année, parce qu'il y a des projets qui ne seront pas aboutis, gèlent les crédits. Les emplois aidés, nous ne les avons pas supprimés. Il y en avait 280 000 dans le budget, il y en a 310 000 aujourd'hui.
Donc vous les rassurez, vous voyez dans les chiffres.
Non, mais nous l'avons dit. Non, mais j'ai fait de vous répondre concrètement
à la question. Alors, il y a cela dit, une question quand
tout
même.
Tout ça a pesé sur le débat, mais parce qu'il y avait une volonté de revanche des partis traditionnels par rapport à leur échec de mai et de juin et qu'ils espéraient le faire avec une base solide, celle de leur électorat dont ils savaient que ça se traduirait automatiquement dans les urnes. Donc c'est une élection mécanique.
Donc vous êtes en train de dire que le vieux monde a résisté finalement pour les sénatoriales.
Pour cette élection, pour cette entre parenthèses.
Cela dit, ça pose un problème politique pour Emmanuel Macron qui avait promis une révision constitutionnelle et pour cela, il faut avoir les 3/5. Donc il y a besoin du Sénat. Il n'aura pas ces 3/5 pour cette révision constitutionnelle. Donc, est-ce que vous vous passerez de cette révision constitutionnelle au Congrès à Versailles pour notamment le cumul des mandats, diminuer le nombre de parlementaires? Ou est-ce qu'Emmanuel Macron va se risquer, comme d'autres en leur temps, à un référendum, ce qui ne les a pas, ça va pas porter chance?
Nous ne sommes pas encore là parce que nous allons voir comment le Sénat va voter au fur et à mesure des grandes lois qui vont venir maintenant. On a vu qu'il y a des majorités qui se sont dégagées. Lors de la loi sur l'habilitation, sur la sécurité. Et le Sénat, paradoxalement, bien que d'opposition, est renforcé d'opposition aujourd'hui avec une droite qui a progressé mécaniquement et logiquement, eh bien, a voté les textes que le chef de l'État a proposés. Vous me parlez du Congrès. Je ne sais pas aujourd'hui quel sera l'état des forces qui soutiendront le gouvernement dans un an et demi ou avant s'il y a un Congrès. Première chose. Deuxième chose, j'ai pu comprendre que, y compris les Républicains, ne sont pas hostiles aujourd'hui à une réduction du nombre de parlementaires. Donc, là encore, sur ce texte-là,
c'est pas sûr. Vous comptez sur des alliances avec la droite, avec la gauche, avec les centristes. C'est encore gagnable d'avoir cette coalition.
Nous avons bien dit. Jamais nous avons envisagé une conquête du Sénat par la République en marche maintenant. On verra ça en 2020, quand nous aurons présenté des candidats au municipal, au cantonal, au régional. Mais ce que je pense aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est de faire en sorte que sur tous les textes, y compris cette réforme importante de la Constitution, nous soyons en mesure de trouver autour de nous des gens qui appartiennent aux Républicains, aux centristes, aux Modem, aux RDSE, aux socialistes, capables de voter avec nous.
Alors pour ce qui est des Républicains, hein, cette droite toujours majoritaire à la Chambre haute, ça va être un peu compliqué. On a entendu tous ces barons dire que le Sénat devait devenir un contre-pouvoir, et c'était le cas notamment pour Bruno Retailleau. C'est le patron de la droite LR au Sénat, on l'écoute.
Le Sénat sera un contre-pouvoir, c'est-à-dire que la France a besoin d'une majorité et d'une opposition. Emmanuel Macron ne peut pas, tout jupitérien qui puisse être, s'attribuer tous les pouvoirs. C'est la démocratie.
Voilà, un Sénat hostile, hein, on l'aura bien compris, François Patria, en un peu quand même du mal à voir se dessiner cette réforme constitutionnelle et cette majorité des 3/5, hein, malgré les espoirs que vous avez précédemment formulés.
Alors, deux choses, le contre-pouvoir et la réforme constitutionnelle.
Ouais.
Sur le contre-pouvoir, moi je conçois mal cette idée de dire que le Sénat serait l'opposition. Parce qu'il a dit qu'il y a une majorité et une opposition, comme s'il y avait une majorité à l'Assemblée et une opposition au Sénat. On l'a vécu dans l'histoire, on l'a vécu sous le général de Gaulle, on l'a vécu sous François Mitterrand. À chaque fois, ça n'a pas donné de bons résultats.
On l'a vécu sous
Hollande. Parce que ça n'a pas bien fonctionné. Et l'idée d'être un contre-pouvoir, c'est contraire même à l'idée de progressisme et de réforme qui veuille que les réformes intéressantes pour ce pays, celles qui vont dans le sens du redressement du pays, pourraient voir une opposition systématique de la part de partis qui aujourd'hui ne rêvent que d'une chose, c'est d'une revanche, en n'ayant jamais accepté que nous ayons franchi la ligne Maginot, ni droite ni gauche. Maintenant, pour ce qui est de la réforme, ce que je crois, mais le chef de l'État le dira lui-même, il s'est exprimé tout à l'heure avec beaucoup de talent sur l'Europe, il dira lui-même, ce que je crois, c'est que le président, dans son programme, a proposé ses réformes constitutionnelles, et je pense que quoi qu'il arrive, il les mènera au bout.
Alors vous parliez du discours d'Emmanuel Macron tout à l'heure devant à la Sorbonne, devant des étudiants, alors bien sûr au lendemain des élections allemandes, avec Angela Merkel qui va députer un quatrième mandat, mais pas avec les sociodémocrates, mais avec une autre coalition qu'elle va chercher, peut-être les Verts et les libéraux. Alors à l'Élysée, on vous explique que le discours n'est pas d'Emmanuel Macron n'a pas changé et qu'il ne se calibre pas en fonction de la vie politique allemande. Donc il a fait beaucoup de propositions. Ça a été un très long discours, un discours assez fondateur, où il exprime sa vision. On en a parlé il y a quelques instants. On ne va pas redire tout ce qu'il a proposé, mais notamment une Europe de la défense, des taxes sur les taxes financières. Mais on va l'écouter sur, justement, son rapport à Angela Merkel. Et il est assez clair là-dessus.
Je veux féliciter à nouveau la chancelière Angela Merkel. Et je sais son engagement européen. Je sais aussi pour elle la blessure de voir des discours nationalistes et haineux avoir emporté tant de suffrages.
Mais je sais que sa réponse ne sera ni le repli, ni la timidité. Je sais que comme à chaque fois que son pays a été face à des défis historiques, elle aura la même réaction. L'audace et le sens de l'histoire.
Voilà, Merkel aurait l'audace et le sens de l'histoire. Donc le message est clair. Il a proposé un traité de l'Élysée en janvier 2018. Est-ce qu'il peut être entendu par Angela Merkel? Est-ce qu'elle aura cette audace? Toute la vision là qu'il a exprimée, qu'il a exposée, pourra être suivie par Angela Merkel si elle en a la possibilité. Qu'est-ce qui est le plus important? La vision d'Emmanuel Macron ou ce qui est possible de faire avec Angela Merkel?
Tout faire, ce que propose Emmanuel Macron, d'abord il faudra du temps. On a donné l'objectif 2024. C'est vrai.
On en a pour au moins 30 ans. Là,
2020. Ouais. Il a dit donné comme 2024. Angela Merkel a montré par le passé qu'elle était capable d'être extrêmement courageuse et de transcender les clivages chez elle. Lorsqu'elle a arrêté le nucléaire, lorsqu'elle a accepté les réfugiés chez elle, elle a montré. Elle l'a payé d'ailleurs.
Je ne doute pas que demain,
s'il s'agit d'une refondation de l'Europe, si comme l'a proposé le chef de l'État, il entend refonder l'Europe sur les bases, sur la sécurité, sur les sciences, sur les étudiants, sur le dumping social, sur la fiscalité, sur la défense de notre pays, s'il fait des propositions que dans le même temps la France est capable de montrer qu'elle-même fait des réformes pour aller dans ce sens, je crois que la chancelière est de nature à accompagner le chef de l'État dans sa démarche.
Absolument, mais c'était le contrat de base. Hein, ça, si Merkel avait été réélue triomphalement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, là, elle est déjà engagée au bas mot, 2-3 mois de négociations pour mettre sur pied une coalition, très certainement avec les libéraux. Et les libéraux, on le sait, ne veulent absolument pas des projets Macron, notamment en ce qui concerne la gouvernance de la zone euro. Est-ce à dire que toutes les propositions qu'a fait aujourd'hui le président, c'était pour peser sur cette future coalition, ou est-ce qu'elles vont rester peut-être lettre morte? Est-ce que vous entendez ce message-là également?
Il n'y a pas seulement que la gouvernance. Ouais. Il y a aussi le fait que peut y avoir une Europe à plusieurs vitesses, vous avez compris.
Oui, refonder
l'Europe. Une Europe où ceux qui veulent avancer avancent ensemble.
Le problème, il est technique. Il est technique. Rien de tout ça pourra se faire sans l'Allemagne. Et l'Allemagne est engagée dans la formation d'une coalition.
Je suis convaincu que la chancelière sera surmontée cette péripétie post-électorale, pour elle aussi aller en sorte, parce que je crois que ce couple franco-allemand est d'un des meilleurs qu'on puisse avoir aujourd'hui pour refonder l'Europe, pour remontrer cette Europe qui protège à travers les pistes. Emmanuel Macron, aujourd'hui, évoque des pistes. Il sait très bien qu'il ne sera pas suivi sur toutes.
Oui,
mais sur la souveraineté financière, je pense que c'est un sujet qui retrouvera une majorité en Europe pour que ce projet puisse poursuivre.
Ce qu'effectivement, vous voulez dire aussi, Véronique, c'est si elle est obligée, et c'est probable, de gouverner avec les libéraux, eh bien, ce sera une Allemagne encore plus exigeante sur les sacrifices à faire et réticente à la solidarité financière.
C'est ce que disent aujourd'hui les libéraux avec qui elle entend travailler demain. Mais je pense que dans une coalition, on est capable aussi de montrer le chemin, de tracer la route, de faire évoluer les réformes. Et si, sur des campagnes électorales où ces partis libéraux ont été très dogmatiques, très durs, je ne doute pas qu'ils puissent évoluer au fur et à mesure de l'exercice du pouvoir.
Vous pensez que le président Macron, aujourd'hui, a pris date avec ce programme ambitieux pour aider, quelque part, Angela Merkel dans ses négociations qu'elle a actuellement pour former sa coalition également?
Vous me parlez d'Angela Merkel. Moi, je vous parle de la France et du chef de l'État. Avez-vous entendu, au cours de ces 20 dernières années, un discours aussi offensif, aussi volontaire sur la construction, sur la refondation de l'Europe? On voit bien que cette Europe s'enlise aujourd'hui.
Mais Emmanuel Macron
propose des pistes pour la refonder. Il faut d'abord les proposer.
Mais l'Europe de la défense, c'est un serpent de mer. Pardon. Alors c'est vrai que la situation du terrorisme est de plus en plus critique, bien évidemment. Mais l'Europe de la défense, ça fait des décennies qu'on en parle et il se passe jamais rien.
Et qu'on ne la fait pas.
Pourquoi on la ferait?
Est-ce que vous figurez les réformes? Vous savez, la réforme du code du travail, ça fait des années qu'on en parle, on ne la fait pas. On l'a fait aujourd'hui. La réforme des assédiques demain, ça fait des années qu'on en parle, on ne la fait pas. La réforme de la formation professionnelle, ça fait des années qu'on s'enlise, on ne la fait pas. On va la faire. Et bien, je ne doute pas qu'au niveau européen, c'est sans doute un processus plus long qui nécessite des concertations, mais le chef de l'État a déjà fixé les dates. Il a dit le dîner à Tallinn, il a dit les dates, le calendrier tel qu'il le voyait.
C'est les dates du calendrier européen.
Et je ne doute pas, il a dit oui, mais c'est à ce moment-là qu'il appuierait sur le bouton, qu'il déclencherait les négociations. Et je crois que ce chef de l'État, que beaucoup, quand même, de pays voisins apprécie en disant que nous avons un chef de l'État aujourd'hui qui fait preuve à la fois de vision, de volonté, de pragmatisme.
Ça, il n'en manque pas, mais peut-être que le chancelier demain n'aura pas la.
Là, vous faites un procès d'intention au processus en disant avec Mme Merkel et puis ses libéraux, elle ne pourra pas avancer.
Moi, est-ce que
je laisse les choses se faire, on verra.
Tout à l'heure, nous avions François Patria, un député de la France insoumise, que vous avez entendu. Il y a eu une manif ce week-end où il y avait beaucoup de jeunes dans les rangs de la France insoumise. Est-ce que Emmanuel Macron parle suffisamment aux jeunes? Alors là, effectivement, il va à la Sorbonne où il y a des étudiants européens, étrangers. Est-ce que vous pensez que l'Europe, ça fait rêver les jeunes aujourd'hui? Est-ce que c'est suffisant pour parler à la jeunesse aujourd'hui?
Ben, je ne parlerai pas seulement de cette tranche de jeunes qui aujourd'hui connaissent déjà l'Europe avec tous les programmes européens, qui font partie de leur étude à l'étranger. Dans le mouvement, vous avez vu, il y avait des jeunes, mais il y avait aussi les retraités, parce qu'on a tout mélangé, les retraites, dans ce débat. Moi, je crois que Emmanuel Macron parle à la jeunesse en ce sens qu'il leur redonne un regain d'optimisme et un espoir. Le monde a changé, ce que n'ont pas vu certains partis politiques encore aujourd'hui. La mobilité, le numérique, les échanges, etc. ont changé. Le mode de vie a changé. Au cours de la vie, on va changer de métier, etc. Tout a changé. Et en prenant en compte ces réalités, en apportant des réformes et des réponses à ce que aujourd'hui, ça n'a pas été fait, puisque nous continuons à stagner avec de vieilles méthodes et avec une dépense publique qui n'est pas très utile aujourd'hui. En tout cas, une dépense publique de plus en plus forte qui ne prouve pas son utilité.
Ça sera dans le cœur du projet de budget demain.
Demain, le budget, ce sera un budget.
C'est ça, le premier acte.
Quand on dit un budget de rigueur, je crois qu'Emmanuel Macron, dans son adresse à la jeunesse, et dans la façon dont les jeunes. Vous savez, la première réunion d'Emmanuel Macron à la mutualité de l'année dernière, c'était au mois de juillet, avant la campagne. Première réunion d'Emmanuel Macron au mois de juillet, le 9 juillet, à Lyon, ce n'était que des jeunes. Il y avait 3800 personnes, il n'y avait que des jeunes dans cette salle, qui croient aujourd'hui retrouver un avenir avec le dynamisme que donne ce pays, le chef de l'État.
François Patria, on dit souvent, et ça vaut dans tous les corps, que ce soit dans le métier, on dit souvent que la fonction fait l'homme. Pourquoi un jeune homme de 39 ans qui vient d'être élu, avec l'audace que vous décrivez, qu'est-ce qui fait que lui peut changer les choses? Ce qu'on n'a pas fait pendant 30 ans, pourquoi?
Pour avoir travaillé un peu aux côtés d'Emmanuel Macron au cours de ces trois dernières années, en tout cas deux années
et demie, parce que c'est les institutions qui bloquent.
J'ai vu à quel point Emmanuel Macron s'était entouré de conseils, qu'il avait réfléchi lui-même aux problématiques, qu'il a posé vraiment. Il a posé la réalité des défis, et le défi numérique, le défi climatique, le défi terroriste.
En fait, il a fait des constats, il a adapté aux
la création des structures d'emploi. Je crois qu'il a analysé, et vous savez, il est parti du principe que ça fait des années que nous savons ce qu'il faut faire. Et que nous ne le faisons pas.
Pourquoi?
Et aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de courage politique. Et c'est à cela qu'il s'est adressé quand il a dit les fainéants, c'était la paresse politique dont il parlait. Et bien, nous ne le faisons pas. Et là, il a décidé de le faire. Il a dit il faut permettre aux forces vives de pouvoir créer plus d'emplois. Il faut permettre de transformer demain des CDI, des CDD en CDI. Il faut permettre demain de pouvoir libérer les forces vives de ce pays. Il faut protéger mieux. Mais il faut le faire intelligemment. Il faut déjà créer pour pouvoir distribuer. C'est ce qui a changé aujourd'hui.
Pour le programme, on sent votre enthousiasme qui est resté le même depuis 4 mois. Quand le président va-t-il enfin prendre la parole pour expliquer toutes ces réformes aux Français? On a vu sa chute de popularité un peu drastique.
Vous avez vu qu'il a remonté de 5 points.
J'entends toujours qu'il parler
de chute vertigineuse et le jour où il remonte, personne n'en parle.
Qu'il n'est pas temps de remonter fantastique, enfin de remonter tada. Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas temps qu'il prenne la parole face aux Français?
Il l'a déjà fait.
Pour s'expliquer,
il
fait ses discours, il répond à des
est-ce
interviews.
Est-ce que vous avez vu l'interview dans un grand hebdomadaire?
Est-ce que le moment de l'explication, les yeux dans les yeux avec les Français n'a pas sonné,
Je pense qu'il le fait chaque semaine, chaque jour, il va sur le territoire.
Oui. Non, répondre aux questions, c'est différent. Non. S'exprimer.
Est-ce que vous voulez un
répondre aux questions, c'est ce que vous faites actuellement. C'est différent. Non, je veux pas de grands discours, on a des grands discours.
Vous voulez quoi alors?
La pédagogie, comment on parle aux Français?
À quelle question n'a-t-il
François
pas répondu
jusqu'à
présent? Dites-moi. Quand il dit, je vais demain réformer le chômage, la politique du chômage, il le dit, et nous allons le faire. Quand il dit demain, je vais réformer le code de travail, nous le faisons, il est voté. Quand il dit demain, je vais réformer la formation professionnelle,
nous, on demande comment nous allons le faire. Qu'il répondra aux questions.
Les journalistes, en fait, c'est ça qu'il veut savoir.
Les journalistes pour les Français, parce qu'on n'est qu'un média.
Le chef de l'État prend un peu de latence pour s'exprimer, vous dites on n'entend pas. Puis quand il parle 2 ou 3 fois dans la semaine, vous dites il parle trop. Alors moi je trouve qu'il parle à bon escient. Je crois qu'il montre le cap, que le gouvernement autour d'Édouard Philippe aujourd'hui est un gouvernement au travail, qui quand même, la mise en chantier des réformes telles qu'elles sont faites aujourd'hui avec le calendrier, c'est pas la réponse qu'attendent les Français. Les Français n'attendent pas de discours, ils attendent des réformes et des résultats. Je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire.
Merci beaucoup, François Patria. Merci Véronique. J'espère que vous avez eu votre réponse. Vous êtes satisfaits. Merci, à Audrey Yatoni, à Pauline Hellmann d'avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique pour l'avoir réalisée. Merci à tous. À très vite.